autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Avis aux amateurs d'astronomie qui vont se régaler avec le dossier de Science et Avenir, consacré aux observations du James Webb Télescope, toutes plus stupéfiantes les unes que les autres, et que vous pourrez même découvrir avec les oreilles, ce sera la surprise du jour. Nous nous demanderons ensuite avec Philippe Hénarejos de Ciel et espace, si les étoiles vont nous sauver. Leur énergie notamment, à commencer par celle de notre étoile, le Soleil. Le Soleil avec qui vous aurez rendez-vous en fin d'émission pour notre bulletin de météo de l'espace en exclusivité interplanétaire, s'il vous plaît. Nous reviendrons sur Terre pour plonger dans le cerveau de nos ancêtres avec le projet Paleo Brain, décrypté par Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie. Et nous nous interrogerons aussi sur la meilleure manière de répéter un morceau de musique dans le calme ou dans le bruit. Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho nous donnera une étonnante réponse autour de la question comment la science infuse et se diffuse et avec quel impact sur nos vies. La question se pose à la lecture du dossier spécial qu'Epsilon consacre au plastique. Enquête sur la plus grande pollution de tous les temps. Mathilde Fontaine nous éclairera sur cette catastrophe en cours dont les scientifiques ont du mal à mesurer l'ampleur mais dont ils se font pourtant l'écho et même lanceurs d'alerte. La preuve tout de suite avec ce bulletin météo-plastique expérimental, Plastic Forecast, lancé à Paris pour l'ouverture du second cycle de négociations pour un traité aux Nations Unies sur la population plastique, lancé par le chercheur australien Marcus Gover.
We have more than 8 billion tons of plastic on Earth.
Il y a plus de 8 milliards de tonnes de plastique sur Terre. Il est temps que nous prenions conscience de l'ampleur du problème. C'est pourquoi nous avons développé la météoplastique, un bulletin météo qui mesure la quantité de plastique présente dans la pluie. La météoplastique allie recherche sur le plastique présent dans notre atmosphère et données météorologiques afin d'estimer le volume de plastique qu'il pleut chaque jour. Mais c'est bien plus qu'un simple bulletin météo. C'est un rappel quotidien que notre production excessive de plastique met notre planète en danger et menace notre santé ainsi que celle de nos enfants. C'est terrifiant. Mais il y a des raisons d'espérer. Nous avons le pouvoir d'influencer la météo plastique.
Il pleut du plastique, Mathilde Fontaine. Ce n'est pas de la science-fiction. Hein. Et vous aussi, un peu comme les scientifiques que vous avez interrogés, en menant cette enquête pour Epsilon, vous avez été surpris, alerté au fond par l'ampleur de ce phénomène, de cette pollution.
On est ressorti de cette enquête encore plus effrayé qu'on ne l'était au départ, alors qu'on partait quand même avec l'idée qu'on était au courant évidemment des travaux qui, depuis 30 ans, sont en train d'objectiver d'abord la présence de plastique en surface des océans, puis en profondeur dans les océans, puis la capacité du plastique à se casser en petits morceaux et donc du coup à être présent de manière massive partout. On avait suivi les interrogations des chercheurs quant à la présence de ce plastique-là justement dans l'air sous la forme de nanoparticules qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de mal à mesurer, mais on ne s'attendait pas du tout à ce ton qu'ont adopté les chercheurs pour nous répondre, qui dépasse largement finalement leurs études scientifiques et qui était un ton de l'urgence et de la peur, en particulier pour les effets pour la santé, mais on y reviendra. Et c'est vrai que cette conférence qui a eu lieu la semaine dernière et dont l'enjeu est quand même très important, hein, puisque l'idée c'est d'essayer de définir un cadre juridique contraignant, donc d'essayer de quelque part, de contraindre un petit peu la production de plastique, puisque le recyclage ne peut en aucun cas, et ça c'est pareil, on l'a démontré aussi dans Epsilon, ne peut en aucun cas être une solution, en tout cas pas du tout une solution totale, voire une solution largement insuffisante.
Ça marche pas vraiment le recyclage.
Ça n'est pas du tout à la hauteur de la quantité de plastique qu'on a, et même des solutions, on va dire, futuristes, du type des bactéries qui seraient capables de digérer le plastique, ne seront jamais, en termes de rapidité, en termes de productivité, à la hauteur de notre propre production. On peut peut-être se remettre des chiffres en tête. Oui. On a 2 millions de tonnes de plastique produites en 1950 Aujourd'hui, c'est 460 millions et 1,2 milliard pardon, en 2060, selon l'OCDE, si rien ne se passe. Donc on est sur une explosion de la production du plastique aujourd'hui. Et c'était bien ça donc, l'enjeu de cette session la semaine dernière. C'était d'essayer de réunir donc, 175 pays, avec évidemment des intérêts super divergents hein, entre les pays d'un côté, qui, comme la Norvège par exemple, sont à la pointe de, on va dire, des réflexions et de ces réflexions qui sont menées pour essayer de réduire la production, et de l'autre, des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Chine, le Brésil, les États-Unis, qui sont des producteurs d'hydrocarbures et donc qui ont de forts enjeux économiques à défendre lors de, cette session. Tout le monde réunit là, et c'est vrai que la semaine dernière, ça a commencé à cafouiller. On a rappelé les experts, évidemment, hein, qu'on a interrogés pour le dossier, pour savoir comment s'était passée la semaine. Ils ont craint au début de la semaine que finalement on fasse carrément machine arrière par rapport à la première session qui avait eu lieu, puisqu'il y avait une tentative vraiment de barrage de ces pays producteurs d'hydrocarbones. Finalement, c'est le soulagement qui domine, avec la décision à la fin de la semaine de le rédiger, donc cette fois un pré-document qui sera présenté à la prochaine session, donc qui aura lieu à Nairobi au Kenya en novembre prochain, pour commencer à poser des règles.
Donc on est loin encore de l'accord contraignant, mais au moins il y a une prise de conscience de ce véritable fléau du plastique, parce qu'effectivement, vous parlez d'hydrocarbures, le plastique c'est du pétrole. Hein.
Le plastique c'est du pétrole, et c'est extrêmement difficile à remplacer pour certaines applications, c'est ça. Et ça on l'a vu, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Hein. On peut faire énormément d'efforts pour le remplacer, et c'est bien la direction qui est identifiée par tous les chercheurs, évidemment, qu'il faut prendre. Donc par rapport à ce protocole, à ce traité qui pourrait émerger, par exemple, ce qui pourrait se décider, hein, c'est de, par exemple, d'interdire tout simplement le plastique à usage unique, les petits couverts, etc. Ça a déjà commencé à être fait dans certains pays, essayer d'étendre ce genre d'interdiction. Ça, c'est des premières mesures, mais on ne pourra pas s'en passer pour d'autres mesures, puisque le plastique, c'est un miracle. Hein. C'est un matériau miracle avec des propriétés qui sont impossibles à copier avec des molécules biodégradables. Et c'est effectivement issu du pétrole, et les propriétés du plastique sont liées à ces propriétés de ces molécules-là spécifiques.
C'est ça, et voilà pourquoi vous dites le monde entier tourne au plastique, que ça soit alors les emballages, on en a parlé, mais aussi les transports, le bâtiment, hein, le béton, les jouets, tous les objets du quotidien. Le plastique est partout, sur la terre entière. Et il nous tombe dessus, il nous pleut dessus. Enfin, c'est véritablement dans la pluie, il y a du plastique aujourd'hui.
Dans la pluie, il y a du plastique. Dans l'air, il y a du plastique, à tel point que certains spécialistes du climat s'interrogent sur, par exemple, l'impact de ces nanoparticules de plastique ou microparticules de plastique en suspension pour, par exemple, déclencher des modifications du climat. Donc on en est à, en fait, interroger le cycle terrestre, essayer d'ajouter cette donnée qui est la donnée du plastique au cycle terrestre. On sait aussi que, par exemple, le plastique a été proposé par certains chercheurs comme un marqueur de l'anthropocène, hein, cette période humaine. La Terre
le plasticocène, en fait.
Le plasticocène, et c'est le marqueur de l'être humain. Et la Terre a quelque part a englobé cette nouvelle matière inventée par l'homme et produite en masse par l'homme dans son propre cycle climatique, géophysique, etc.
Donc il faut, les scientifiques en ont non seulement pris conscience, ils essayent de mettre des mots et des chiffres sur cette bombe à retardement. Ils proposent aussi des pistes qui sont effectivement pas seulement scientifiques, qui sont effectivement de repenser complètement notre monde en essayant de sortir le plus possible du plastique, d'échapper au plastique.
Oui, ils essayent d'imaginer par exemple la démarche de la consigne, hein, qui a été beaucoup citée par les chercheurs qu'on a interrogés, qui est un principe simple comme bonjour, mais auquel qui existait, qui a été remplacé par l'utilisation du plastique et qui pourrait revenir. Et au-delà de ça, ce qui compte pour les chercheurs aussi, c'est effectivement d'avancer dans la caractérisation de cette pollution-là, et pas uniquement sur la quantité de plastique, mais aussi, et ça c'était l'une des découvertes du dossier aussi effrayante, sur sa toxicité. On a des données assez précises sur trois plastiques, le bisphénol A, on en a beaucoup parlé, les phtalates. Les retardeurs de flamme au bromure, le troisième. Pour les autres composés, on a très peu d'études pour l'instant qui évaluent la toxicité de ces plastiques. Or, on les retrouve dans toutes les parties du corps de tous les animaux. Et là, je ne parle pas simplement d'un oiseau qui va manger du plastique. Mm-hmm. Le plastique va dégrader son estomac, ça arrive. Mais même chez l'homme, on trouve du plastique dans le lait maternel, on trouve du plastique dans toutes les parties du corps de tous les animaux. Quel impact
comme la
ça
Terre l'a intégré, tout le vivant a intégré. Tout le vivant a été obligé d'intégrer le plastique.
Or, le plastique, c'est 10 000 additifs. 10 000 additifs qui sont assez peu solidaires, en fait, des molécules du plastique lui-même, qui peuvent se diffuser. Or, le plastique, on découvre aussi que c'est super, super attirant pour des petites bactéries. En fait, ça transporte super bien les bactéries et donc ça peut tout à fait répandre des maladies. On s'aperçoit aussi que le plastique, du coup, dégage tout un tas de ces produits-là. Et pour l'instant, ça n'est que le début, en fait, de cette étude sanitaire. Donc, on a réussi aujourd'hui à objectiver scientifiquement une pollution, on va dire, matérielle. Reste à quantifier cette pollution chimique.
Du boulot, terrible enquête hein, à lire absolument dans ce numéro d'Epsilon. La une est comme recouverte de plastique, mais ça n'est pas du plastique, hein, c'est bien du papier, on est d'accord. Hein. Histoire de nous rasséréner un petit peu, allez, dites-nous aussi un mot, Mathilde, sur ce nouveau livre MOOC que vous avez conçu, un voyage d'Epsilon et qui va nous renvoyer sur la Lune, ça fait rêver quand même.
Oui, voilà, on s'aère un peu. On a voulu prendre plus de temps, plus de place pour raconter des histoires un peu longues, pour immerger, etc. Et on a lancé ce concept qui est en ce moment donc en vente, en pré-vente en fait, sur la campagne de financement, la plateforme de financement participatif Ulule.
Voilà, campagne de soutien et de financement participatif.
Campagne de soutien et de financement. Donc il faut taper Ulule Epsilon 2023 et vous tomberez dessus. Il s'agit donc des voyages d'Epsilon. On a envisagé ça comme un intermédiaire entre un livre et un magazine qui nous emmène. Alors sur la Lune, pourquoi ? Parce que tout simplement, ça se relance, parce que c'est le grand retour, parce que c'est la mission Artemis cette année. Et on a eu envie d'aller voir, d'aller déterrer les vieilles cartes, d'aller chercher les petites histoires bizarres. Est-ce que vous saviez que le patron des hôtels Hilton avait imaginé un hôtel sur la Lune dès 1967, par exemple ? Il a designé ça et ça apparaît dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec des beaux fauteuils rouges derrière. On voit les plans. Enfin, on a trouvé plein de petites pépites qu'on a mis en scène pour que ce soit immersif et on espère que ça nous emmènera un peu loin du plastique.
Exactement, donc rendez-vous dans le Hilton de science-fiction, rendez-vous sur la Lune, premier numéro de ces voyages d'Epsilon et comme le mensuel, hein, Epsilon du mois de juin avec son excellent et terrible dossier plastique sont à gagner. Si vous nous les demandez, vous le savez, chers amis auditeurs, par mail ou sur notre page Facebook, sachant qu'on le rappelle, il est aussi disponible Epsilon en kiosque et sur abonnement, hein, absolument. Notre infusion de science se poursuit. Allez, avec un petit cadeau sonore, surprise à votre intention, à toutes et tous, chers amis auditrices et auditeurs, la transcription en ondes sonores des observations du James Webb Télescope. Avant d'ouvrir avec vous, Fabrice Nicot, le dossier de Science et Avenir consacré à ces formidables découvertes qui renouvellent toute l'histoire de l'univers, nous proposons de prêter l'oreille alors à la fabuleuse nébuleuse de Carène, à celle de son nano-astral. Oui, vous m'entendez bien, mais aussi de prêter l'oreille à l'atmosphère de l'exoplanète WASP-96b, mise en onde sonore par le musicien et physicien Matt Russo, professeur à l'Université de Toronto pour la NASA. C'est inouï. Thank you.
On y est presque sur RFI dans la nébuleuse de Carène. Moi, j'adorais aussi l'atmosphère des exoplanètes mises en onde, donc pour la NASA, par le physicien et musicien Matt Russo. C'est totalement inouï, Fabrice Nicot, à partir des observations des ondes, des observations découvertes, recueillies, captées par le James Webb Télescope. C'est aussi inouï que tout ce qu'a capté finalement le James Webb Télescope depuis son lancement en 2021. Vous consacrez le dossier et la une de Science et Avenir à ces fabuleuses découvertes, pas seulement sonores évidemment, là on s'amuse un peu quand même.
Mais oui, mais merci beaucoup, parce que j'allais dire finalement le James Webb, il lui manquait que la parole, et ben même pas, il a la parole
ça y est,
grâce
ça y est.
À ses travaux.
Et les images sont évidemment dans Science et Avenir.
Voilà. Oui, oui, effectivement, les images sont plus accessibles
à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui est le plus surprenant dans cette moisson de découvertes, Fabrice Nicot?
Alors, moisson, c'est le terme. Hein. En faisant ce dossier, je peux dire que j'ai rencontré des astronomes heureux, vraiment. Il y a une effervescence fabuleuse. Et notamment autour de ce sujet des galaxies. Et des premières galaxies, puisque pratiquement dès les toutes premières images diffusées l'année dernière, d'emblée, les astrophysiciens disaient « Oula, celle-là, elle a l'air d'être très loin, celle-là... » Bon, maintenant, on a des chiffres. Et le record, hein, la galaxie la plus lointaine que l'on connaissait, le record est pulvérisé, puisqu'on en a trouvé une 100 millions d'années encore plus loin. Et celle-ci, elle est confirmée, mais il y en a une autre qui est en cours de confirmation, qui elle serait à 200 millions. Donc,
on n'avait jamais observé aussi loin dans le temps et dans l'espace, aussi précisément.
Jamais aussi loin et surtout jamais aussi bien. Parce que non seulement ces galaxies, on les voit, mais on voit un peu comment elles sont faites. Et ce qui étonne les astronomes, c'est décidément la précocité de l'univers. Parce que ces galaxies sont déjà étonnamment... mûres, entre guillemets, elles ressemblent aux galaxies que l'on connaît, c'est pas des petits blobs flous, enfin voilà, elles ont une structure.
Elles sont déjà impressionnantes, et vous avez d'ailleurs interviewé à ce sujet David Elbaz du CEA, hein, qui pilote la caméra à bord du James, enfin on peut le dire comme ça, allez on le dit comme ça, oui. À bord du James Webb Télescope, écoutez voir justement ce qu'il nous disait sur, c'était il y a un petit moment, enfin le 26 octobre 2022, ici même dans ce studio, justement autour de ces toutes premières découvertes du James Webb Télescope.
Au tout début de l'histoire de l'univers, alors qu'on voyait que des bébés galaxies, on voit des galaxies énormes, gigantesques, surpeuplées d'étoiles, qu'on a commencé à percevoir totalement inaccessibles au télescope spatial Hubble. L'idée, c'était que James Webb devrait les voir comme le nez au milieu de la figure. Et là, dans les images qu'on a commencé à analyser, on les voit. On les voit apparaître et toute la question, c'est comment sont-elles nées et est-ce que ça remet en question nos connaissances, nos théories, nos compréhensions? Et effectivement, l'une des grandes découvertes qui est en train d'émerger là en ce moment, c'est qu'on voit même les ancêtres de ces dinosaures et systématiquement, les galaxies sont trop massives pour tous les modèles dont on dispose aujourd'hui.
Le James Webb Télescope va obliger les astrophysiciens à revoir leurs modèles. Ces galaxies sont trop énormes au début, à l'origine, les premières.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, il y a les galaxies qui sont... Alors, je ne me permettrai pas de contredire David Elbaz.
Non, mais allez-y, précisez. C'était il y a un peu plus d'un an. Hein,
voilà, il y a plusieurs modèles de formation des galaxies. Et certains, effectivement, n'arrivent pas à décrire ce qu'on observe. D'autres, encore si. Je cite des théoriciens qui disent « on y arrive encore à faire rentrer ». Mais enfin, si les galaxies les plus lointaines actuelles sont vraiment confirmées aux distances où elles sont, là, ça va commencer à devenir dur. Il va falloir trouver des explications. Et notamment aussi, il y a les galaxies, puis il y a aussi les trous noirs.
Hein, parce qu'on s'aperçoit... Que nous révèle le James Webb sur les trous noirs?
Ben oui, alors j'adore en plus, puisque ça c'est un autre astronome, Stéphane Charlot, qui les qualifie de « little hidden monsters », les petits monstres cachés. C'est des trous noirs qui font déjà 100 millions de masses solaires. Et
de
qui...
tout petits trous noirs, c'est ça?
Oui, 100 millions de masses solaires, là, concentrés dans des galaxies ados, on va dire. Elles ont 1,2 milliards après la naissance de l'univers, donc c'est quand même encore très jeune. Et ça, c'est vrai que, d'ailleurs, David Elbaz le dit dans le dossier, expliquer la formation, l'accumulation d'autant de matière en si peu de temps, Alors là, les modèles, ils pédalent dans la semoule parce que il faut trouver des mécanismes capables de...
Et ça réjouit évidemment les astrophysiciens. Ils sont ravis quand, au fond, des observations viennent les bousculer totalement. Les bouscule aussi au niveau des exoplanètes. Hein. Il y a aussi une moisson. C'est très loin, au-delà de notre système solaire.
Oui. Et les exoplanètes, les résultats sont un petit peu plus lents à venir parce que les galaxies, quand vous regardez, elles sont là. Les exoplanètes, faut quand même tomber au bon moment. Donc,
capter, bien sûr.
Les résultats, pour l'instant, sont moins spectaculaires. Néanmoins, on démontre une fois de plus l'acuité du James Webb, puisqu'on est quand même capable de détecter, par exemple, des poussières dans l'atmosphère de planètes très jeunes, hein, puisque le James Webb observe dans l'infrarouge, donc il voit des corps plutôt chauds, là, et donc on voit des planètes tout juste sorties du four, comme dit Jennifer Noble dans le
berceau
dossier.
Des planètes.
Voilà, une planète qui n'a que 15 millions d'années. Donc, à comparer avec nos 4,5 milliards de respectables...
Oui, c'est pas beaucoup, je suis d'accord. Donc, le James Webb Télescope révèle-t-il déjà, finalement, une autre histoire de l'univers à suivre, à découvrir, à s'émerveiller dans le dossier. Et c'est aussi à la une de Science et Avenir de ce mois de juin, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?», vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car on va maintenant tenter de plonger dans le cerveau de nos ancêtres, humains, préhumains, avec vous, Thomas Cavaillé-Foll, dans Science et Vie, autour de ce projet Paléo Brain, un vrai défi. Comment, grâce à l'imagerie, reconstituer l'endocrâne de nos ancêtres? Et qu'est-ce que ça dit de nous, de nos pauvres cerveaux? Pauvres cerveaux, c'est le titre de ce morceau, signé Marc Delmas sur RFI.
Pauvre cerveau qu'il faut bercer d'un mouvement lent et régulier, une onde sucrée chante un palais jaillit. Pauvre cerveau qu'il faut bercer d'un mouvement lent et régulier, une onde sucrée chaude, un palais jaillit. Mes pauvres regards qu'il faut distraire des Escobar au belvédère.
Mes pauvres regards qu'il faut distraire des Escobar au belvédère.
Mes pauvres oreilles, pauvres oies, qu'un chant monotone assaille.
Mes pauvres oreilles, pauvres oies, qu'un chant monotone assaille.
Mes pauvres soif à étancher, pauvres sous l'art au vin mauvais.
Mes pauvres soif à étancher, pauvres sous l'art au vin mauvais.
Pauvre cœur à remonter, où est la fille de l'horloger?
Pauvre cerveau, Marc Delmas sur RFI, tout à fait ce qu'il nous faut pour aborder dans votre série, Thomas Cavaillé-Foll, sur Science et Vie, de défis scientifiques les plus fous. Ce projet, donc, Paléo Brain, reconstituer le cerveau de nos ancêtres, alors humains, préhumains, un projet piloté par Antoine Balzo, que vous avez interviewé, du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui cherche à reconstituer quoi, l'endocrâne, c'est ça, les traces qu'a laissé le cerveau dans les crânes fossiles.
En fait, ça allait plus loin même que l'endocrâne. Effectivement, c'est le cerveau ne se fossilise pas. Donc, voilà. On connaît plein de choses de nos ancêtres. Hein. On arrive à séquencer leur génome, à toucher du doigt un peu leur culture. On connaît leur migration. Mais c'est vrai qu'au niveau du cerveau, les chercheurs, ils avancent un peu dans le noir.
Donc, on trouve les crânes, mais
on arrive à trouver le crâne. Donc, on en déduit le volume. Et effectivement, vous avez parlé de l'endocrâne, c'est-à-dire que le cerveau... on le sait, il est très complexe. Hein. Il y a des sillons, ça fait différentes régions cérébrales. Et ça, tous ces trucs-là laissent des traces sur la surface interne du crâne.
Donc, sur
l'os, exactement. Mmh. Et à partir de ces traces que l'on voit sur la surface interne, les chercheurs, jusqu'ici, ils ont essayé de déduire à peu près la trace l'emplacement des sillons et des différentes régions cérébrales qui supportent des fonctions cognitives très, très spécifiques parfois, et donc d'en déduire un peu certaines choses sur la cognition de nos ancêtres. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien du tout. En fait, entre le cerveau et le crâne, il y a quelque chose. Il y a une membrane, et puis il y a du liquide, et puis il y a aussi les méninges. Et en fait, chez les grands primates, et notamment les humains, les méninges sont assez épaisses. Donc, en fait, la corrélation ne se fait pas très bien.
Ce qu'on découvre sur le crâne n'est pas suffisant.
Exactement. Et donc, du coup, ce qu'on fait parler au brain, et c'est une recherche qui est en cours, c'est assez super de pouvoir le voir en train de se faire, c'est qu'ils repartent du début. Ils sont en train d'analyser le cerveau et l'endocrâne de 60 personnes actuelles, des humains, là, qui sont
des vivants actuels. Alors, aucun souci pour ces gens-là, tout se passe virtuellement.
Sous IRM,
voilà,
bien sûr.
Sous IRM, on est d'accord.
C'est de l'imagerie de pointe. Effectivement,
on leur enlève pas le crâne, vous nous rassurez. Mais donc, on étudie...
On a essayé d'avoir leur cerveau d'un côté et leur endocrâne, leur crâne, tel qu'il est, de l'autre. Donc, c'est quand même assez complexe. Hein. Il faut l'imagerie de pointe. Et puis ensuite, c'est trouver des corrélations entre les deux et créer comme ça une sorte d'atlas entre la forme de l'endocrâne et ce à quoi ressemble le cerveau réellement.
Et pour après aller vérifier, étudier, voir ce qu'il y a.
Une fois, après, ça donnera une clé de traduction de la surface interne d'un crâne et du cerveau. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont donné le tout premier endocrâne et cerveau. Ils ont donné le tout premier endocrâne réalisé de cette manière à des spécialistes du cerveau. Et les personnes se sont complètement trompées en fait, sur la façon dont ils plaçaient les sillons au-dessus du cerveau. Donc c'est vraiment un nouveau truc qui est en train de sortir. Et bientôt, on aura une façon de reconstituer un peu mieux le cerveau de nos ancêtres.
Et l'important là-dedans, c'est de comprendre, reconstituer à la fois le cerveau de nos ancêtres, alors humains, préhumains, primates, de voir les différences et d'essayer de comprendre un peu. On sait bien qu'une tâche cognitive n'est pas localisée dans un endroit du cerveau, mais essayer de comprendre un peu leurs capacités, les capacités cognitives rattachées cerveau ou crâne.
Vous l'avez dit, c'est très très difficile d'attacher une capacité cognitive à un endroit du cerveau, même actuellement sur des humains actuels, on n'arrive pas à le faire. Alors se lancer sur des ancêtres, c'est compliqué. Mais par contre, on va pouvoir voir, par exemple, l'évolution de certaines zones en particulier, notamment comme ça, la zone de l'aire de Broca, qu'on appelle, qui est la zone associée au langage parlé. Ah. Ça peut être très intéressant de voir comment elle a évolué entre Australopithèque, par exemple, parce que c'est ça qui est super, c'est qu'après, on pourra utiliser cette clé pour n'importe quel cerveau, remonter au cerveau dès qu'on a un crâne un peu bien conservé. Donc, cette évolution de la zone qui gère le langage parlé en fonction des âges, en fonction des différentes espèces, ça peut être très intéressant.
On peut savoir quand est apparue la parole, chez qui, comment.
On peut faire des suppositions.
On peut faire des suppositions et des hypothèses. Il y a aussi tout ce qui concerne, je crois, les questions de latéralité, de droite-gauche, puisqu'en fait c'est très lié à notre main droite et très lié à notre cerveau gauche et vice-versa.
Il y a une région en particulier sur le sillon sylvien, je crois bien, qui est très associée à la latéralisation, c'est-à-dire est-ce qu'on est droitier ou est-ce qu'on est gaucher, que ce soit manuellement ou dans notre vision. Et en fait, sur cette zone-là, elle est plus grosse à gauche quand on est droitier et inversement, en fait. Et donc là, en même temps que ces volontaires, ils sont en train de passer des IRM à foison pour essayer de choper leur endocrâne et leur cerveau, ils font aussi des profils de latéralisation, pour pouvoir effectivement voir si on arrive à avoir une corrélation entre l'endocrâne et ce profil de cette latéralisation comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, on pourra peut-être savoir si Lucie était droitière ou gauchère, mais surtout le fait, cette préférence pour la droite, c'est unique à l'espèce humaine. Et certains chercheurs pensent que c'est apparu en même temps que l'utilisation d'outils complexes et la fabrication d'outils complexes.
Donc ça ouvre
un champ des possibles assez incroyable.
Ouais. Merci infiniment pour ce cette enquête, Thomas Cavaillé-Foll, comment reconstituer le cerveau des humains disparus, titre assez choc, hein, je dois le dire, pour une enquête top qui est signée Lise Gougis, hein, sur ce projet Paléo Brain. C'est à lire dans Science et Vie de ce mois de juin, dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question comment la science infuse ou se diffuse jusque dans le cerveau des musiciens ou des musiciennes en herbe, on va se demander maintenant, je crois que ça vous intéresse aussi, Thomas, avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho, s'il vaut mieux répéter pour un concert au calme ou dans le bruit. Réponse pas intuitive du tout, mais juste après, la répétition de qui ? De Jethro Tull sur RFI Rehearsal. Sur RFI Rehearsal, répétition, et c'est justement, c'est bien la question, hein, Cécile Estienne, question ouverte par le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, grand spécialiste de l'attention dans sa chronique, hein, à l'école du cerveau, dans Cerveau et Psycho, faut-il répéter au calme ? Point d'interrogation.
Bien, vous vous doutez effectivement, Caroline, que si Jean-Philippe Lachaud nous pose cette question ce mois-ci, c'est que la réponse n'est pas si évidente que ça. Et effectivement, parfois, il vaut mieux ne pas pouvoir se concentrer complètement pour mieux apprendre.
Expliquez-nous ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau?
Donc, on commence à le montrer et on commence à comprendre pourquoi aussi. C'est ça qui est intéressant. Bon, si on prend le cas classique de l'ado qui répète son petit solo de guitare tout seul dans sa chambre pendant tout l'après-midi, à la fin de la journée, il le sait par cœur, il le sait sur le bout des doigts. Le lendemain, devant son prof, c'est la cata. Il n'arrive absolument plus à jouer son morceau.
C'est donc le stress. Avant, on disait que c'était le stress.
C'est ce qu'on peut se dire. C'est le stress. Parce qu'effectivement, le stress n'est pas très bon dans ce genre de situation. Mais ça peut être le stress, effectivement. Mais le problème, c'est que la même mésaventure peut arriver au même ado qui va jouer devant ses meilleurs potes sans pression du tout. Parce qu'en plus, eux, ils ne jouent pas de guitare, ils jouent de la batterie ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, et il va avoir exactement la même chose. Et en fait, on commence à comprendre que c'est une question de cible attentionnelle. Voilà. Jean-Philippe Lachaud fait référence à des études de deux chercheurs de l'université de Brown aux États-Unis, voilà, qui ont fait des petites expériences et qui montrent que le cerveau, ce n'est pas très étonnant, mais est sensible à l'environnement pendant l'apprentissage et qu'il s'adapte évidemment au contexte. Et donc ces chercheurs ont fait apprendre des petites tâches motrices, des opérations motrices à des volontaires. Voilà. Certains y perturbaient leur attention parce qu'ils devaient faire attention à autre chose et d'autres non. Et ce qu'ils ont montré, c'est que même ceux qui devaient apprendre dans des situations un peu perturbées apprenaient plus lentement, certes, mais aussi bien que les autres, que les cas témoins, voilà, et que même leur apprentissage était plus solide face aux perturbations. Donc ça, c'est un peu paradoxal, parce qu'on peut se dire qu'il faut être très, très, très concentré pour bien apprendre.
En fait, ils ont juste appris à apprendre, même sans être trop concentré, c'est oui, ça qu'il faut déduire
à cause de cette question de cible attentionnelle, en fait, qui bouge évidemment tout le temps quand on apprend quelque chose.
si on va reprendre cet adolescent dans sa chambre, quand il va tout seul dans sa chambre, pour apprendre son morceau, il va d'abord se focaliser sur la position de ses doigts pendant peut-être une seconde, et puis après, il va regarder la partition pendant encore à peu près le même temps, et puis il va écouter le son que ça fait, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait appris son morceau. Voilà. Et ça, c'est la stratégie de son cerveau pour apprendre. Si dans la même chambre, il entend la radio de son frère à côté et que son chat fait le pitre à côté, voilà, il va aussi apprendre parce que son cerveau va certes se focaliser aussi un peu sur le chat et sur le frère, mais il va quand même apprendre. Et dans une situation où il sera perturbé, le cerveau va retrouver cette même stratégie pour pouvoir jouer quand même.
Donc au fond, le cerveau, il s'adapte à ce qui se passe. Et donc, si on apprend dans des conditions terribles, si les conditions sont terribles quand on doit se produire, c'est bon, quoi.
Exactement. Alors, ça n'a pas besoin d'être exactement les mêmes. Ouais. On n'est pas obligé d'apprendre devant son prof, par exemple. Ça, c'est totalement inutile. Et ce que l'étude ne montre pas, en revanche, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible que c'est mieux d'apprendre d'abord tout seul, concentré au calme, puis d'apprendre dans le bruit avant d'aller jouer. Ça, c'est fort probable. Mais en tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour apprendre quelque chose, mieux vous mettre dans des conditions similaires à celles que vous allez observer.
C'est intéressant parce qu'au fond, c'est valable pour la musique, mais c'est valable pour toutes les tâches motrices.
Voilà. Si vous êtes jongleur, gymnaste, c'est les mêmes principes.
Ça veut dire que si on l'a appris dans le calme, on aura du mal à la reproduire dans le bruit, et probablement.
Bah, probablement.
Le cerveau s'adapterait donc au contexte, c'est ce que vous dites à la fin de cet article, au contexte dans lequel il a répété les gestes.
Il ne prend pas les mêmes stratégies en fonction du contexte dans lequel l'individu, quand il apprend. Et voilà. Et s'il a plusieurs stratégies, ça sera plus facile pour lui que s'il n'a jamais utilisé qu'une seule.
À lire absolument dans Cerveau et Psycho, l'école des cerveaux, cette chronique de Jean-Philippe Lachaud consacrée donc aujourd'hui à la répétition. Faut-il répéter au calme? Pas sûr. C'est à retrouver cette chronique tous les mois dans Cerveau et Psycho, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Et oui, car vous êtes nos stars à nous. We are all made of stars. On écoute Moby sur RFI avant de vous retrouver, Philippe Hénarejos, pour nous expliquer dans Ciel et Espace de ce mois de juin pourquoi et comment les étoiles vont peut-être nous sauver. All made of stars, nous chante Moby sur RFI. Philippe Hénarejos dans Ciel et Espace, vous allez même plus loin finalement que pour nous, petite poussière d'étoiles. Les étoiles vont-elles nous sauver? Point d'interrogation.
Oui, c'est parti d'un constat, c'est que d'abord, l'astronomie n'est pas une science hors de ce monde. Mm-hmm.
Et, ce elle n'est pas hors sol, voilà. Elle est juste là où
ce
dans le ciel.
Ce monde fait face à une crise, à plusieurs crises, de la biodiversité, de l'énergie notamment. Et il y a des réponses qui peuvent se trouver dans ce que les astronomes découvrent, notamment sur les étoiles. Ça a été le point de départ de ça et... C'est résumé, en fait, au début du dossier, il y a une phrase, c'est « En une heure, notre étoile,
Le soleil,
qui n'est pas très loin, déverse sur Terre l'équivalent de la totalité de la consommation mondiale d'énergie fossile en un an.
Ah oui. Voilà. C'est énorme. Donc il pourrait nous sauver, le soleil.
Ça, mais c'est bon. Posé. Voilà. Mm-hmm.
Après, maintenant, le chemin c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà. Oui, c'est
donc,
ça.
Nous, on vous dit simplement, voilà, vous l'avez là. Hein. Vous avez les données.
La source énergie est là.
C'est quand même tentant. C'est intéressant. Et il y a une deuxième voie dans les étoiles qui, alors là, se trouve dans les étoiles, vraiment au cœur des étoiles. C'est ce qui se passe au centre des étoiles. Notamment le Soleil, mais enfin toutes les étoiles, c'est pareil, c'est la fusion d'éléments légers, en gros d'hydrogène en hélium. Et cette fusion, on en parle, c'est un serpent de mer terrestre.
C'est le Graal, hein. C'est l'Arlésienne.
Mais il y a quand même des scientifiques qui travaillent. Et notre journaliste, notre rédacteur en chef adjoint, David Fossé, est allé les voir à ITER, dans la Durance, où ils essayent de recréer, en fait. Bon, à une échelle qui est moindre et puis sur des laps de temps, évidemment, beaucoup plus courts, là, les réactions qui se produisent au cœur du Soleil, et ces réactions ont la vertu de produire énormément d'énergie. Et donc, l'idée, c'est quand même que les étoiles nous envoient une énergie qui est
constante, voilà. Absolument.
Alors, bien sûr, quand on parle, tout à l'heure, je parlais de ce qu'on reçoit en termes de photons. Évidemment, il faut le capter, il faut le transformer. Et
l'énergie solaire, il y a quand même un grand bout de l'énergie solaire.
Sur les autres énergies qu'on utilise, on en a fait un petit récapitulatif. Si on prend 100% d'énergie primaire, quelle que soit, hein, c'est ce pétrole, uranium, même solaire. Alors il faut transformer cette énergie, il faut la capter, il faut la transformer, il faut la transporter à l'endroit, et puis il faut l'utiliser. Et donc à l'arrivée, l'énergie qui reste utile à celui qui consomme, c'est 2% de ces 100% au départ. Ah, oui. Il y a énormément de pertes.
Déperdition.
Le solaire n'échappe pas à ça. On sait qu'il y a une notion de rendement avec notamment le photovoltaïque. Mais le solaire n'est pas que le photovoltaïque. Il y a d'autres utilisations possibles. C'est pour ça que c'est génial.
C'est ça, c'est quand même oui, une source de recherche et de pistes, mais insensées.
Je veux dire, avec la phrase que je vous ai dite au début, on serait un peu bête, idiot.
De ne pas essayer.
Parce que là, le trésor, il est là.
Mais en même temps, vous avez aussi interviewé dans Ciel et Espace l'historien François Jarge, je crois, qui dit qu'au fond, toute l'histoire de l'énergie, c'est qu'une suite de promesses non tenues et que la plupart des réponses techniques ont été inadaptées quand même. On a l'exemple avec ITER.
On ne perd pas la boule. On fait un focus sur cette idée de capter l'énergie du soleil et ou de recréer l'énergie des étoiles. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est un dossier qui fait 20 pages, donc il y a tous les détails.
Il y a de quoi lire, de quoi comprendre, absolument.
Mais cela ne nous exonère pas d'une certaine sobriété. C'est ce que raconte cet expert. Parce que, de toute façon, notre avidité ne cesse pas pour l'instant. Et là, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir la source d'énergie qu'on veut.
Si on en veut toujours plus,
ça va pas marcher. Donc, ça n'est pas, comment dire, une solution unique. C'est celle-là, c'est la solution. Il faut y aller et on est tous sauvés. Le titre est un peu provocateur. Les étoiles vont-elles nous sauver ? C'est pour attirer le chaland. Ah tiens, si les étoiles nous sauver, ce serait quand même pas mal.
Il y a un beau point d'interrogation, mais en tout cas, c'est une vraie piste de recherche.
Mais c'est une piste qu'il ne faut pas négliger, à mon sens. On a consulté des travaux universitaires qui ont été faits là-dessus, etc. Bien sûr, il y a plein d'objections, hein, le côté alternatif du soleil, il y a le jour et la nuit. Mais tout ça pourrait être techniquement résolu. Par le réseau, par des moyens qui consistent à stocker l'énergie qui est produite ou captée pendant le jour pour la restituer la nuit. Ça commence à exister. Ce sont des solutions compliquées. Mais enfin, que diable. On a fait des centrales nucléaires, c'était compliqué aussi.
C'est ça. Et si on mettait notre intelligence au service, à regarder, à s'inspirer finalement du soleil et des étoiles. C'est ça.
Voilà. On voulait, nous, à Ciel Espace, vous alerter sur le fait qu'il y a dans le ciel dans cette science qu'est l'astronomie, des pistes à explorer et qui ne sont pas hors sol, qui ne sont, c'est pas juste une science qui fait rêver parce que c'est loin et c'est beau, et c'est beau et c'est les grands espaces. Et c'est
on Star peut Trek. Vraiment
ça, ça peut nous servir,
s'en inspirer.
Regardez sur le solaire, juste un exemple, il y a le spatial aussi. Si le rendement des panneaux solaires a augmenté ces dernières décennies, c'est notamment par l'utilisation de ces techniques sur les satellites et les sondes spatiales.
On a un avenir si on s'inspire des étoiles et si on sait rester humble, c'est peut-être
exactement.
Ça aussi.
Après, évidemment, les solutions sont politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faudra faire des choix de société, mixer, etc. Mais les étoiles sont là.
Les étoiles sont là et vous nous le rappelez très joliment dans ce dossier de ciel et espace. Les étoiles vont-elles nous sauver? Point d'interrogation. Bien sûr, nous avons aussi un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Et puisqu'on parle de notre étoile, de notre soleil, voici venu l'heure de notre bulletin météo de l'espace qui nous donne des nouvelles du soleil, de ses éruptions, de ce magnifique spectacle qui peut nous inspirer mais qui peut aussi perturber nos satellites et autres technologies de communication. Le bulletin de l'espace de ce mois de juin est signé Baptiste Falk, prévisionniste du CNRS au Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes.
Si le Soleil est votre étoile, bonjour! Nous vous avions annoncé une forte activité aux alentours du 17 mai. Eh bien, cela n'a pas manqué. Deux belles éjections de matière ont eu lieu le 16 et 17 mai. Puis deux autres, encore plus conséquentes, le 22 et 23. Mais celles-ci ont à peine titillé la Terre. Lorsque l'on observe le Soleil avec un télescope adapté, le spectacle est saisissant. Imaginez, la surface paraît granuleuse. La texture ressemble à un sol de terre aride, craquelé en tout point. Des milliers de millions de facettes jaunes forment un puzzle qui se meut au rythme du champ magnétique solaire. Si le Soleil est actif, on y distingue des zones sombres qui effacent localement le jaune de la surface. On les appelle des taches solaires. De plus près, il ne s'agit pas de simples taches. Elles ressemblent plutôt à des trous dans lesquels s'engouffrerait de la matière environnante. En réalité, il s'agit d'une zone où le champ magnétique local devient très intense, ce qui entraîne une baisse de la température. Cette zone nous paraît donc plus sombre. La semaine dernière, nous avons eu le bonheur de voir se former un groupe somptueux de taches solaires, dont plusieurs étaient larges comme deux ou trois planètes Terre. C'est le plus gros groupe observé depuis au moins une dizaine d'années. Celui-ci a passé le couchant du Soleil le 31 mai dernier. Il reviendra le 14 juin au levant. Soyons patients. Côté prévision, le début du mois s'annonce plutôt calme. Mais à partir du 12 juin, le spectacle devrait reprendre. Une zone active importante fera face à la Terre. La semaine qui suivra, le 19, c'est le fameux groupe de taches énorme qui sera de retour dans notre direction. Pour les aurores, vous l'avez compris, il vaut mieux attendre la seconde moitié du mois de juin. Surtout autour du 15-16 et du 21-22. Pour les télécommunications et les satellites, de fortes perturbations sont attendues dès le retour des zones actives. Donc, dès le 13 juin, une fin de mois mouvementée nous attend. Nous avons hâte de vous partager tous ces événements. Nous allons évidemment surveiller tout cela et nous en reparlerons tous ensemble au prochain bulletin.
Rendez-vous le 5 juillet prochain pour un nouveau bulletin de l'espace en partenariat avec le CNRS fourni par les prévisionnistes du projet SESAM du Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes en exclusivité carrément intergalactique et en votre compagnie. Chers consoeurs et confrères de la presse scientifique, merci Mathilde, merci Cécile, merci Fabrice, merci Thomas et Philippe. Et je rappelle que sont toujours mis en jeu quelques exemplaires de vos magazines respectifs, Epsilon, Cerveau et Psycho, Science et Avenir, Science et Vie et Ciel et Espace. Pour les recevoir, vous le savez, il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. On croise les doigts pour vous et vous nous envoyez de belles photos avec ensuite. Merci.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion à 23h, temps universel, et vous abonner bien sûr à notre podcast. N'hésitez pas à partager la semaine prochaine. C'est Chantal Leroux que vous retrouverez à ce micro. Je prends quelques jours de vacances pour mieux vous retrouver ensuite avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Un grand merci pour votre curiosité, votre écoute et votre interactivité. Nous avons de la chance d'avoir des auditeurs et des auditrices à l'esprit aussi libre et ouvert. Restez ouvert justement à tous les possibles à l'écoute de RFI dans une minute à peu près, le journal.